14h, le tour du monde. Bonjour.
Salut Bernard.
Alors on y va, on t'écoute.
On part du Québec où on compte encore, c'est très élevé je trouve, mais enfin, 89 décès au cours des 24 dernières heures, ce qui nous porte à 4228. On compte 49 139 cas, soit 594 de plus. Mm-hmm. Et on est obligé de constater que pendant que la croissance du bilan des cas et des décès liés à la COVID ralentit au Canada, ce n'est pas le cas au Québec. Juste hier, à lui seul, le Québec a rapporté 66 % des cas du jour et 75 % des décès. Mais évidemment, le premier ministre Legault nous demande d'être prudent avec les comparaisons, et il a raison. Je veux dire, Bernard me le rappelle souvent lui-même quand on fait notre tour d'horizon.
Oui, oui.
Il faut faire attention parce qu'on compte pas de la même façon. Ensuite, il y a des régimes totalitaires ou des pays corrompus où on veut pas trop mal paraître, fait qu'on en fait disparaître, puis patati patata.
Oui.
Néanmoins, ce sont nos seules, comment dire, références à l'heure actuelle.
Oui, c'est ça. Non, mais je te comprends, Luc. Quand je te fais ce commentaire-là, c'est pas un reproche que je te fais.
Non, je sais.
Tu me dis, Bernard, c'est les chiffres qu'on a pour le moment. Et moi, ce que je dis, c'est que d'ici quelques mois, on va avoir des chiffres beaucoup plus complets. Et là, on va pouvoir vraiment se comparer.
Avec ce qu'on appelle la surmortalité. C'est pas compliqué comme concept. On prend combien il y a eu de morts à la même période l'année passée ou, si tu veux, sur une moyenne des trois dernières années. Puis tu regardes à Québec aujourd'hui. Il se trouve qu'au Québec, M. Legault l'a souligné avec raison, il se trouve que les chiffres donnés par le Québec apparaissent être d'une grande, grande précision.
Ce qui veut dire
la surmortalité est à peu près exactement là où on trouve le nombre de décès enregistrés.
C'est le surplus de morts, dans le fond. C'est un peu raide là, de le dire comme ça.
Des gens qui ne seraient pas morts n'eût été de la COVID.
Voilà,
c'est ça,
exactement.
Alors, si tu me permets, je vais passer au Canada. 88 076 cas, 6 760 décès. Et là, la Société centrale d'hypothèques et de logements a rendu public ce matin un rapport indiquant que la construction domiciliaire pourrait s'effondrer de 75 % cette année, et les prix des résidences s'effondrer de 25 %. Ouais. S'il y en a qui avaient envie de vendre leur maison, là, pensez-y pendant une couple d'années. À l'échelle du monde, Bernard...
Luc, est-ce que je peux t'arrêter?
Avec plaisir.
Parce que ça vient de sortir. C'est sorti là, dans les dernières heures, là, mais ça vient d'être porté à mon attention. Là, la Cour suprême de la Colombie-Britannique permet l'extradition de la de Meng Wanzhou là aux États-Unis là. Je pensais que ça t'intéressait.
Ça m'intéresse beaucoup, c'est que ça vient tout juste de sortir, je le surveillais depuis tantôt, je l'avais pas vu.
Fait qu'on s'entend que c'est très important parce que là elle va être extradée vers les États-Unis et évidemment nos relations avec la Chine ne vont pas s'emporter mieux là, ça c'est sûr.
Ça va pas être simple ça. Ouais. Ça va vraiment pas être simple.
Alors,
je suis un peu surpris d'ailleurs.
Je referme la parenthèse. Vas-y mon gars.
Très important ce que tu viens de dire. Donc à l'échelle du monde, 5 738 840 cas, 354 610 morts. Et là, ce que j'ai trouvé choquant en voyant ça ce matin, au moins 200 incidents de violence contre des soignants ont été enregistrés depuis le début de la pandémie, a indiqué le Comité international de la Croix-Rouge dans un communiqué aujourd'hui, soulignant que cette violence prend de l'ampleur. Bon nombre de soignants sont victimes, disent-ils, de harcèlement, de stigmatisation et de violence physique. On dit même que certains professionnels de la santé ont été tués.
Hein?
Eh oui.
Est-ce qu'on sait où?
C'est pas spécifié dans le communiqué qu'ils ont rendu public. Non, je ne le sais pas exactement.
Wow. OK.
Alors, allons aux États-Unis. Pour la troisième journée d'affilée, les États-Unis ont déploré moins de 700 morts dans les dernières 24 heures. Mm-hmm. Après avoir régulièrement franchi la barre des 2000 morts journaliers entre le début avril et le début mai, les États-Unis n'ont pas dépassé ce triste seuil depuis près de 20 jours et sont à plusieurs reprises passés en dessous des 1000 décès. Des bonnes nouvelles. Au cours des 24 dernières heures, par contre, le pays a franchi la barre des 100 000 décès. Plus précisément, 100 578. On y retrouve 1 721 126 cas confirmés. Et là, ben, on a un président qui nous tient toujours...
Il nous tient en haleine, hein?
En haleine. On est divertis, disons
J'allais dire, d'une connerie à l'autre, on est très certainement tenu en haleine.
Voilà. Alors, Donald Trump, il a menacé aujourd'hui de réglementer ou de carrément fermer les plateformes de réseaux sociaux après le signalement la veille par Twitter de deux messages du président qualifiés, et je cite Twitter, de trompeurs et véhiculant des informations non vérifiées.
Fais juste faire une petite parenthèse ici, Luc, pour expliquer aux gens, mettons, qui ne sont pas sur Twitter, qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, quand tu envoies quelque chose sur Twitter, puis je t'avoue que je ne suis pas un habitué, là, mais c'est ce que j'ai compris, si Twitter juge que ce que tu véhicules dans le tweet est, comment dire, misleading, comment on appelle ça,
un trompeur
nous induit en erreur, ils font une mention, ils disent vérifier ça. C'est ça qu'ils ont fait. Là. Ils ont dit vérifier les faits.
Ils rajoutent des petits caractères.
Ceci pourrait être trompeur.
Exactement. Et c'est très bien résumé.
Alors, je cite Trump ce matin, parce qu'il a quand même utilisé Twitter ce matin. Les républicains ont le sentiment que les plateformes de réseaux sociaux censurent les voix conservatrices. Nous allons les réglementer sévèrement ou les fermer pour empêcher qu'une telle chose se produise, a tweeté le président ce matin.
Ce qui n'est pas rassurant.
Dans les tweets signalés par Twitter hier, là, Trump affirmait que le vote par correspondance était forcément frauduleux. Parce que c'est un grand débat à l'heure actuelle aux États-Unis. C'est le cas au Canada, on peut voter par la poste.
Ouais.
Aux États-Unis, ça se faisait pour les militaires déployés à l'étranger puis les citoyens américains à l'étranger.
Mm.
Mais maintenant, on veut le faire de façon universelle et Trump est complètement opposé à ça parce qu'il a l'impression que les minorités vont voter davantage. Or, les minorités ne votent pas pour lui.
Et j'ajoute, Luc, que la raison pour laquelle il faut porter attention, c'est qu'il y en a qui pensent que Trump pourrait se servir notamment de cet argument-là pour contester l'éventuel résultat de la présidentielle, pour dire, dans le fond, j'ai été fraudé, c'est moi le gagnant. Et donc, c'est le scénario catastrophique dont on a parlé, toi et moi, de multiples reprises, où il ne reconnaîtrait pas le résultat de la... Voilà, exactement. Là, ce qu'on sent, c'est que ça pourrait... Il pourrait être en train d'esquisser une stratégie en vertu de laquelle il pourrait carrément refuser de quitter la Maison-Blanche.
Voilà, exactement. Très inquiétant. 8 États des États-Unis profitent de la pandémie pour restreindre l'accès des femmes à l'avortement, ont dénoncé un comité d'experts de l'ONU. Il s'agit de l'Alabama, l'Arkansas, l'Iowa, la Louisiane, l'Ohio, l'Oklahoma, le Tennessee et le Texas. Pas mal les terrains à Trump.
Ouais.
Ces États se servent des dispositions exceptionnelles prises pour lutter contre la pandémie qui permettent de suspendre les procédures médicales jugées non essentielles.
Je suis surpris par l'Ohio, par exemple.
Aussi, l'Ohio, d'habitude, on ne les met pas là-dedans. L'Ohio, c'est un grand État industriel.
Ouais. Plutôt démocrate, en fait,
Qui était traditionnellement plutôt démocrate. Ouais. C'est en bonne partie là, en Ohio, que sont nés les grands syndicats américains qui sont devenus à la longue les FL-CIO.
Dans le domaine de l'acier, notamment. Oui, c'est ça.
Voilà. Alors, maintenant, on dit que ces États-là servent des dispositions exceptionnelles prises pour lutter contre la pandémie, hein, qui permettent de suspendre des procédures médicales jugées non essentielles. Et là, on passe à un autre niveau.
Oui.
Le secrétaire d'État Mike Pompeo a déclaré ce matin que son pays ne considérait plus Hong Kong comme une zone autonome. Les gens vont dire, et alors, qu'est-ce que cela peut bien nous faire? D'abord, comprenons bien que demain, la Chine doit adopter une loi qui permettra à Pékin d'intervenir pour restreindre les libertés civiles à Hong Kong. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que Hong Kong, c'était une colonie britannique qui, en 1997, a été rétrocédée. C'était un bail emphytéotique de 99 ans. Quand il a expiré, après de longues négociations, l'Angleterre a accepté de rétrocéder. Ils n'avaient pas beaucoup le choix.
On s'entend.
Mais ils ont accepté en vertu de ce qu'ils ont appelé un pays, deux systèmes. Donc, il y aurait un système capitaliste à Hong Kong. Ceci implique beaucoup plus de liberté individuelle, de démocratie et tout ça. Et c'est comme à la porte d'entrée et de sortie de la Chine pour faire le commerce, n'est-ce pas?
Très bien.
Alors, en les désignant comme une zone autonome en 1997, les Américains leur ont conféré un certain nombre de privilèges donnés à des pays amis. Et là, Pompeo, en disant ce qu'il a dit ce matin, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il va, excuse-moi l'expression, tirer la plug sur ses relations avec la Chine en ce qui concerne Hong Kong.
C'est très important, tu as raison de le dire.
C'est extrêmement important parce que là, ceci devient de plus en plus des gestes hostiles, très hostiles même, qui commencent à s'approcher de ce qu'on appelle un casus belli.
Et par ailleurs, cause de guerre. Mais j'allais dire, l'autre problème, Luc, c'est que visiblement, il y a une partie de la population de Hong Kong qui va résister. Et moi, je crains un bain de sang, là.
C'est-à-dire que, comme tu sais, depuis le début de l'année, il y avait des manifs. Il y avait des manifestations assez violentes d'ailleurs à Hong Kong contre cette tentative du gouvernement central de Pékin de mettre la main de plus en plus sur Hong Kong et sur sa façon de fonctionner.
Oui.
Et là est arrivée l'épidémie, la pandémie. Alors tout ça s'est calmé, puis à un moment donné, les Chinois, le gouvernement communiste chinois a décidé que c'était peut-être le moment idéal maintenant pour aller de l'avant avec ça, parce que les gens regardent ailleurs. Alors, il y a effectivement des manifs à l'heure actuelle qui sont réprimés dans le sang, crois-moi. Et ça peut mener à des troubles civils en Chine, mais ça peut mener aussi à de plus en plus en plus de pression venue des États-Unis sur la Chine. Un jour, ils vont se fâcher. C'est ça qui est le problème.
Oui, puis on craint évidemment que Trump exacerbe les tensions avec la Chine pour faciliter, on va dire, sa réélection à la Maison-Blanche. Enfin, on verra bien.
Et voilà, j'ai presque terminé, Bernard. Je voulais te mentionner le Brésil qui a enregistré 1039 morts. Chiffre que, franchement, je ne crois pas du tout. Là. Multiplie-le par au moins 10. Donc, 1039 morts officiels au cours des dernières 24 heures. Un bilan qui dépasse le millier de victimes pour la quatrième fois en une semaine.
Ouais. Ouais,
et au Mexique, ben là, on dit qu'ils viennent de dépasser les 8000 décès. Toi qui as vécu au Mexique, moi qui ai souvent été au Mexique, ne crois pas un mot de ça sur un pays qui n'est pas loin de 100 millions d'habitants. C'est ça, le Mexique, Bernard, c'est à peu près 90 millions, 100
ouais,
millions.
Oui, aux dernières nouvelles, là, c'est quelque chose comme ça. Là.
Alors, moi, je te dis que les 8000 décès, alors qu'on voit que le virus est en train de se propager à une vitesse folle, 8000 décès, ça doit plutôt être proche de 80 000 décès, d'après moi.
Moi, je vais dire... combien tu dis?
80 000.
10 fois plus?
Oui.
Oui, je pense que tu es pas mal dans les ordres. C'est 126 millions en 2018, le Mexique. Oui, 10 pour 1, Luc, tu n'es probablement pas loin de la vérité.
Quand tu connais le Mexique là, un peu, puis toi, tu le connais encore plus que moi, tu sais que là-bas, il n'y a jamais rien qui est bien, bien clair. Hein?
Non, les Mexicains sont extraordinaires. Mais pour ce qui est de l'État et du gouvernement
mexicain... La gouvernance, qu'on appelle.
C'est corrompu, mon homme. Oh,
c'est incroyable.
C'est corrompu. Puis là, c'était...
Jusqu'à l'os, comme on dit.
Jusqu'à la moelle. Puis c'était déjà très corrompu. Puis là, avec le pouvoir que les narcotrafiquants ont gagné au fil des dernières années, là, je veux dire, les institutions mexicaines étaient déjà dysfonctionnelles. Là, elles sont dysfonctionnelles, corrompues et, dans bien des cas, achetées carrément par les barons de la drogue. Là, c'est quelque chose. Enfin, c'est très dommage. C'est très, très dommage.
Ben alors, ça fait pas mal le tour, Bernard. J'aurais pu en trouver davantage parce que j'ai plein d'autres choses qui se passent dans le monde. Mais en gros, en ce qui nous concerne, les États-Unis, à l'échelle mondiale, voir ce qui se passe en Amérique latine, qui est devenue le nouvel épicentre. Et c'est très indéniable. C'est drôle, hein? Je vais terminer là-dessus. Si tu faisais un dessin, je me suis amusé à le faire sur un globe terrestre à côté de moi, tu regardes comment ça a bougé cette pandémie-là. Elle est partie de la Chine, elle est allée en Corée du Sud, elle est allée à Singapour, puis tout à coup, elle a frappé l'Europe. Et d'après tout ce qu'on sait maintenant, c'est à partir de l'Europe que les États-Unis ont été infectés, pas à partir de l'Asie-Pacifique. Et ensuite, c'est descendu vers l'Amérique latine. À l'heure actuelle, le seul continent qui s'en sort un peu mieux, mais encore là, c'est le continent africain. Puis on donne deux raisons pour ça. Sont-elles valables? Enfin, j'ai cherché des explications moi-même. Raison numéro un, la chaleur. Il paraît que la chaleur tropicale de l'Afrique, ça c'est pas bon pour la vie des virus. Et deuxièmement, on dit que parce que les Africains ont été confrontés à toutes sortes d'épidémies au cours des 30 dernières années, évidemment, on pense à l'Ebola, mais on pense aussi au VIH, puis on pense aussi au paludisme, à la malaria.
Une espèce d'immunité naturelle?
Ben, c'est qu'ils ont, dit-on, un système immunologique immunitaire plus fort que les autres humains, justement parce qu'ils sont constamment confrontés à ça. Maintenant, ça se peut bien qu'il y ait un scientifique qui arrive puis qui dise « la voix dit n'importe quoi », là, mais je l'ai lu, j'ai fouillé.
Oui.
On cherche à savoir pourquoi l'Afrique n'est pas touchée comme les autres. En tout cas, réjouissons-nous parce que s'ils se faisaient frapper de front, ils ne sont pas équipés sur le plan médical pour faire face à ça.
Non, tout à fait. OK, Luc, on se reparle hockey un peu plus tard dans l'émission.
Avec plaisir.